5 minutes pour comprendre, présenté par Robin Hulin.
Et aujourd'hui, dans 5 minutes pour comprendre, on continue de s'intéresser à différentes thématiques scientifiques et de recherche en tout genre. C'est en partenariat avec l'Université du Mans. Cette semaine, on va se plonger au 19e siècle, au Mans, et on va évoquer un fait qui est tombé dans l'oubli, qui s'est avéré assez marquant à cette époque. Il s'agit d'une émeute. Et pour en parler, j'accueille Karl Zimmer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université du Mans, au laboratoire Temos, Temps, Monde, Société, également professeur au Collège Kennedy à Allonne. Et donc, vous travaillez en ce moment sur un projet de thèse. Ça s'intitule « Le Mans, septembre 1839, anatomie d'un événement oublié ». Pour commencer, Karl Zimmer, avant de s'étendre sur ce sujet, pour expliquer aux auditeurs, resituons-nous un peu dans le passé. En 1839, à quoi ressemble le département de la Sarthe ?
Alors, la Sarthe, on est sur une circonscription administrative qui en gros, prend les frontières du département d'aujourd'hui, avec pour chef-lieu Le Mans. On est sur un territoire très rural, agricole, du bocage un petit peu partout. On a pas encore tout à fait cette division qu'on peut voir aujourd'hui entre l'ouest beaucoup plus bocagé, vallonné, et l'est qui est, on va dire, sous l'influence de la Beauce avec ses grandes plaines. C'est un petit peu moins vrai à l'époque. L'ouest est quand même principalement sur de la production de chanvre, et sinon quelques petites villes, La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard.
Donc 200 ans après, on n'a pas eu un chamboulement énorme.
On est juste sur une évolution. Par contre, Le Mans, on est sur 20 000, 25 000 habitants.
Et donc, sur quoi portent vos travaux de recherche ?
Bien, précisément, moi, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un carottage dans l'histoire, justement, du Mans, en 1839, à partir d'un événement qui a un petit peu chamboulé pendant 3 jours la ville, mais aussi le département, puisqu'il y a des répercussions, ou en tout cas il y a des mini-émeutes qui ont lieu aussi dans un certain nombre de localités sartoises. Et donc l'idée, c'est de prendre cette émeute comme un observatoire de ce qu'est la vie ordinaire des gens au 19e siècle.
Quelles ont été les causes de cette émeute ?
Tout part au départ d'une question de grain, c'est-à-dire que les habitants voient circuler un certain nombre de convois avec du blé dedans. Et donc, ils vont décider de les arrêter, de les stopper, parce qu'il y a une espèce de crainte liée à la disette. Et en fait, quand on étudie un petit peu en profondeur l'événement, on se rend compte qu'il va y avoir une complexité dans les répertoires d'action qui vont être mobilisés. C'est-à-dire qu'il va... on va voir apparaître des barricades, mais pas seulement pour bloquer la route, aussi pour symboliquement occuper l'espace, et évidemment aussi pour s'approprier une arme politique qui, entre 1830 et 1848, est extrêmement importante. La barricade, c'est en gros l'arme populaire pour faire de la politique.
Pour expliquer un peu aux auditeurs, quel est le régime en place à cette époque, en 1839 ?
Alors, on est vraiment au mi-temps de ce qu'on appelle la monarchie de juillet. 1830, il y a une image que vous connaissez sans doute, qui est la liberté guidant le peuple, hein, ce tableau de Delacroix, où on voit une espèce de Marianne, en tout cas la liberté avec le peuple autour. Bon, 1830, c'est une révolution qui voit un nouveau roi venir sur le trône, qui s'appelle donc Louis-Philippe, et qui va essayer de concilier à la fois les idéaux de la révolution et en même temps restaurer l'ancien régime.
Alors, comment procédez-vous dans vos recherches ?
Alors, le travail de l'historien, c'est d'abord l'idée d'aller fouiller dans des archives qui sont parfois un petit peu éparpillées, parfois un petit peu énigmatiques. Et comme moi, je fais de l'histoire populaire, l'idée, c'est au fond d'essayer d'aller traquer la banalité qui surgit, en fait, entre les lignes. Parce que la plupart des archives, que ce soit des journaux, que ce soit les actes d'accusation d'un procès, les interrogatoires de la police, c'est généralement le pouvoir qui les produit. Et donc, moi, quand je fais de l'histoire populaire, l'idée, c'est d'aller traquer à l'intérieur de ces discours, ce qui me permet de comprendre ce qui a motivé les gestes de l'insubordination.
Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment de votre vie à orienter vos recherches vers ce domaine et cette histoire ?
En vrai, il y a beaucoup de hasards qui font qu'à un moment donné, on rencontre des sujets ou des archives. Mais il y a quand même quelque chose qui peut se rapprocher aussi du contexte de la monarchie de Juillet, puisque Louis-Philippe, c'est un roi bourgeois. Il s'entoure d'un gouvernement de banquiers. Son gouvernement est vu très rapidement au départ comme une espèce de modernité politique, jeune, un renouveau. Très rapidement, 1832, la France est frappée par une énorme épidémie du choléra. Et en même temps, énormément de mouvements sociaux qui ont été oubliés, mais qui ont véritablement structuré en fait le régime, un petit peu comme ce qui a pu se passer pendant justement le quinquennat là, d'Emmanuel Macron.
Et donc, parallèle, enfin certains pourraient y voir un parallèle.
Évidemment, quand on regarde l'histoire de la monarchie de Juillet, il y a des vrais parallèles qui peuvent être possibles. Et donc, ça permet d'essayer de comprendre aussi plein de choses.
Qui co-dirige ce travail de thèse avec vous?
J'ai deux encadrants, d'abord pour le laboratoire Thémos et un petit peu pour l'aspect, on va dire, plus local, c'est Hervé Guillemin, donc un professeur d'histoire contemporaine au Mans. Et pour l'aspect, on va dire, plus thématique sur justement la révolte, l'aspect des acteurs dans la Révolution, c'est Mathilde Arrère qui est professeur, qui est maître de conférence à Marne-la-Vallée.
Merci beaucoup, Carl Zimmer.
Merci.
Enseignant-chercheur au laboratoire Thémos, temps, monde, société et professeur au collège Kennedy à Allonne. Et puis, vous pouvez réécouter tous les autres chercheurs de l'Université du Mans. Pour ça, vous allez sur radioalpa.com.